peu de retard. J'ai pris le nom, ne vous inquiétez pas. Et puis moi-même, ça tombait bien cette fois-ci. J'étais un petit peu en retard parce qu'on venait de mettre en boîte une émission d'une trentaine de minutes pour France 3 Lorraine qui passera donc demain. On a fait avec... Voilà, je ne vais pas vous raconter, vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Visiblement, les médias commencent à suivre avec intérêt, en région et même nationalement maintenant, le festival. Et ça, c'est pour nous un grand plaisir au bout de 10 ans. Alors donc, bonjour et merci à nos invités. Alors, comme on dit, il y en a qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, Monsieur Bordage, Jean-Pierre Bordage, qui est un des grands maîtres, on va dire, de l'imaginaire français, un des auteurs aujourd'hui qui s'est gagné, au-delà du respect de ses collègues et de nombreux lecteurs, un vrai public personnel. Je crois que ça suffit, tout le monde sait que Pierre est un des grands écrivains qu'on apprécie, et en plus c'est un ami du festival. On sait qu'il préside un autre festival, lui plus ancré sur la science-fiction, à Nantes, on ne va pas le cacher, mais ça ne l'empêche pas d'être un fidèle et un ami des imaginales, comme quoi, quand on aime l'amour de l'imaginaire, quand on aime ces littératures, avec des diversités, eh bien, il n'y a pas de concurrence, mais il y a des complémentarités. Et donc, Johan Elliott, alors on dit régional de l'étape, c'est parce qu'il nous a fait le bonheur de s'installer à Épinal. Voilà, ça veut dire qu'on s'y sent tellement bien que lui, 4 jours par an, ça ne lui suffisait pas. Il y est maintenant à demeure. Voilà. Et bien sûr, c'est aussi un amateur de littérature, un romancier passionné d'histoire. C'est un peu logique, il était prof d'histoire en lycée professionnel. C'est d'ailleurs là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer devant des élèves communs. Et puis, c'est devenu aujourd'hui une des signatures incontestées dans le domaine de l'imaginaire, qu'il s'agisse de la science-fiction, avec un faible pour l'Uchronie, mais aussi d'autres littératures. Il y a un tout petit peu de fantastique, mais surtout entre Uchronie et, je dirais, fantasy urbaine. Et puis, la petite nouvelle, mais en France seulement, Aliette de Bodard, qui en fait a trouvé le moyen de faire les choses compliquées quand tant d'autres les font simples. Française mais maîtrisant parfaitement l'anglais, elle a décidé de débuter une carrière dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'elle a commencé par écrire des nouvelles et des romans en anglais qu'elle a publiés chez des éditeurs britanniques et américains, et elle a même été nominée sur des listes de prix prestigieux aux États-Unis, si je me souviens bien, en tout cas pour un de ses textes. Et donc Aliette de Bodard a commencé sa carrière, ce sera le sujet d'un entretien qu'on aura, je crois que c'est demain, si je me rappelle bien, sur comment faire une carrière aux États-Unis alors qu'on est française. Mais ça, bon, on n'abordera pas la question puisqu'on l'aborde demain. Voilà, et donc c'était une inconnue pour moi, entendue parfois, mais je dis tiens, c'est amusant, vous voyez, parce qu'on voit dans les listes de prix américains des auteurs qui ont un nom français. On dit tiens, c'est d'origine française, etc. Évidemment, quand on n'est pas au courant, on ne se doute pas que... Aliette était de nationalité française et non pas une américaine ayant un nom francophone comme il en existe. Et puis ces textes ont été traduits en français, ben oui, tout est possible, on a commencé étrangement, alors on continue. Et donc ces textes d'une française écrits en anglais sont aujourd'hui traduits, d'abord hommage aux revues littéraires. Galaxy a publié sa première nouvelle en France, la deuxième sort dans le prochain numéro. Il y a une nouvelle aussi sur Angle Mort, un magazine numérique. Et puis, premier roman, j'ai à peine eu le temps de l'ouvrir parce qu'il vient de sortir, d'Obsidienne et de Sang, le premier roman des Chroniques Aztèques, puisque voilà le sujet d'Aliette de Bodard. On va commencer par elle, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a amené, Aliette, à choisir comme sujet d'une uchronie, hein, on le connaît, c'est une histoire parallèle, diverse, il y a une divergence dans l'histoire, et puis le monde n'est pas celui qu'on connaît. Là, l'Empire aztèque existe toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, non pas comme d'autres romanciers, de vous intéresser à Napoléon III, on verra tout à l'heure avec Johan Elliott, ou de vous intéresser à l'Égypte, comme pas mal d'auteurs, mais de vous intéresser aux Aztèques, parce que finalement, je crois que c'est la première fois qu'on a des auteurs d'imaginaire qui s'intéressent aux Aztèques.
Oui, ça marche. Moi, je viens essentiellement d'une enfance où j'ai lu énormément de textes mythologiques, de contes et de récits, et parmi lesquels il y avait pas mal de récits incas. et de récits aussi chinois, vietnamiens, bon, qui font partie de mon imaginaire à moi. Et quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction et de la fantasy, j'étais plus attirée par ces univers-là qu'on finalement on rencontre assez peu, plutôt que de me tourner vers des choses un petit peu plus classiques dont j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour. Impression qui est très probablement trompeuse, mais j'avais ce besoin de nouveautés, de découvrir de nouvelles choses que je n'avais pas vues jusqu'ici. Et donc, je me suis tournée vers tout ce qui était empire aztèque. Et comme j'ai trouvé des choses fascinantes, je me suis dit que ce serait une idée intéressante de les faire survivre jusqu'au XXe siècle. À partir de là, j'ai essayé de construire une trame chronologique qui justifierait le fait qu'il soit toujours existant à cette époque-là. Et finalement, on en est arrivé au fait que la Chine ait découvert l'Amérique avant, donc ce qui donne des interactions culturelles légèrement différentes de celles qu'on a aujourd'hui, et qui est aussi quelque chose que je trouve fascinant. Donc, tout ce qui est rencontre de cultures et comment les cultures évoluent dans le temps avec des circonstances qui sont différentes de celles qui les ont forgées aujourd'hui.
On va plonger tout de suite dans les mondes d'Aliette de Bedard. Un petit extrait. Lorsque j'eus fini, le silence revint. Je n'osais pas lever les yeux. Eh bien, dit finalement Xochi Quetzal, je n'ai guère de visite. Madame, un prêtre de surcroît. Encore que, dit-elle sur un ton déçu, qui m'évoqua celui qui pourrait adopter un jaguar qui a laissé échapper sa froid, ce n'est pas l'un des miens. Je déglutis. Je me demandais jusqu'à quel point je pouvais lui dire la vérité. Vos prêtres vous croient toujours dans les cieux, Tobanchan, Dame Xochitl, excusez-moi pour la prononciation, c'est redoutable. La lumière qui inondait ma tête se fit plus vive, et sa voix prit des accents de la colère de la tempête. Je gardais les yeux fixés sur le sol de terre battue. Ils ne savent pas, parce que la gardienne n'a pas jugé bon de les prévenir. Et pour cause. La dernière chose dont Tenochtitlan avait besoin était d'une guerre religieuse. Mais je comprenais qu'avoir été exclu de Tamashuan par la dualité pour un simple péché de chair devait être douloureux. « Je ne suis pas la gardienne, » dis-je finalement. « Non, » dit-elle d'une voix atone. « Tu peux te relever, prêtre, que veux-tu ? » Je m'approchai prudemment de l'estrade, tous mes muscles prêts à s'enfuir. Les dieux étaient capricieux et se souciaient peu de l'équilibre du monde, a fortiori lorsqu'ils avaient été chassés de la compagnie de leurs semblables. « Je suis venu vous demander une faveur. » La fleur Quetzal sourit. Elle n'était plus jeune. Un treillis de fines rides couvrait ses joues et elle se frottait sans arrêt les yeux, si bien que leurs cornets étaient rouges de vaisseaux sanguins martyrisés. On vient rarement pour autre chose. La religion, c'est important dans cette société, Aliette.
Oui, tout à fait. En fait, là, c'est quelque chose qui se passe au XVe siècle, donc avant, un petit peu avant l'arrivée des conquistadors. Donc la religion tient toujours une place très forte, mais c'est aussi, une des choses que j'avais, une des modifications par rapport à aujourd'hui que j'avais mise dans l'univers, c'est-à-dire que la religion aztèque évoluait au XXe siècle, mais demeurait très très présente dans les croyances du peuple.
Quand on écrit un roman comme celui-ci, bien sûr, on a une totale liberté, même si on a construit un monde avec ses propres contraintes, celles qu'on s'est fixées. Mais est-ce que vous avez quand même fait, comme un romancier historique, des recherches vraiment historiques sérieuses sur les Aztèques et les cultures mayas ou les autres cultures centra-américaines de cette époque ?
Les cultures mayas, pas énormément, parce qu'il n'y a pas eu énormément de... Enfin, il y a eu quelques contacts commerciaux, en fait, mais pas... La plupart des interactions des Aztèques étaient avec leurs voisins immédiats. Par contre, oui, j'ai je dirais une pile, mais malheureusement, c'est plus que ça, de livres historiques, d'abord grand public, puis historiquement un petit peu plus sérieux, histoire d'essayer de cerner un peu le peu qu'on sait sur les Aztèques. Il faut bien reconnaître que les Espagnols ont été... très 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 motivé pour exterminer la culture, donc c'est un peu difficile de séparer parce que les seuls restes qu'on ait en fait c'est les comptes rendus qu'en ont fait les frères espagnols, et puis après ce qui reste pareil des Aztèques au Mexique, mais qui est une culture assez bâtarde puisqu'elle a survécu aussi à l'invasion espagnole. C'est pas forcément évident de remonter aux sources, mais dans la mesure du possible j'ai essayé de faire en sorte que ce soit comme les Aztèques qu'on connaît nous historiquement, à la différence près que les dieux sont réels, les croyances religieuses sont réelles, et on peut faire de la magie en répandant du sang.
Autre imaginaire, autre époque, autre uchronie, avec Joan Eliot, le roman qui l'a vraiment lancé et fait connaître, La Lune seule le sait, qui vient d'ailleurs, puisque c'est devenu une trilogie, d'être réédité dans une très très belle édition, il faut le reconnaître, une édition intégrale par les éditions Mnemos, la trilogie de la Lune. En plus, c'est vrai que l'intérêt de ces, ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est 25€, donc franchement, trois romans pour ça, avec une belle édition comme ça, c'est quand même une belle affaire pour, pour découvrir un petit peu le travail de Joan Eliot. Je profite pour faire l'article. J'ai pas d'action, tout va bien. Non, hein, j'ai pas d'action, on est d'accord. Non, non, en plus, je suis anthologiste pour eux et ils payent pas très bien, donc vous voyez, c'est vraiment parce que leurs livres sont bons. Elle est dans la salle, je le sais. Plus sérieusement, petit extrait. Jules assista alors à une scène inoubliable. Un des gaillards taillait un brin de causette avec une nurse sur un banc. Il ne vit pas les soldats approcher. Un de ses camarades lança un sifflement en guise d'alerte, mais trop tard. Les gardes lui avaient coupé toute retraite. Ils lui demandèrent de présenter ses papiers et l'autre, bravage devant sa belle, renacla. La discussion s'envenima et les gardes portèrent la main à leur ceinture où pendaient leurs pistolets. Vif comme l'éclair, le baratineur fit jaillir un cran d'arrêt de sa manche. Dans le même mouvement, il planta sa lame dans la cuisse du plus proche soldat. La nurse poussa un cri et son galant bondit, bousculant sa victime. Il courut à travers la pelouse en direction du pont Niéna. Le garde valide porta un sifflet à sa bouche et se mit à souffler comme un beau diable. Curieusement, aucun son ne sortit de l'instrument. Pourtant, les autres témoins de l'algarade s'étaient aussitôt figés sur place comme autant de statues de cire. Prudent, Jules les imita. Il comprit rapidement que son choix était le bon. Le fuyard avait à peine parcouru une cinquantaine de mètres qu'une silhouette massive débouchait d'un bosquet sur sa droite et fonçait droit sur lui. Lancé de toute la vitesse de ses quatre paires de pattes, l'insectoïde avait répondu aux injonctions muettes des ultrasons émis par le sifflet. Il stoppa sa course une seconde à peine, le temps de repérer sa cible, unique humain en mouvement dans un périmètre de plus de 200 mètres. Alors, claquant des mandibules, il partit en chasse. Il rattrapa sa proie au milieu du pont. Le gars se retourna et lâcha un juron, suivi d'une plainte déchirante quand les pinces buccales se refermèrent autour de sa taille. Il eut beau ruer, se débattre et asséner une série de coups de poing sur les yeux à facettes de la bestiole, rien n'y fit. L'insectoïde rapporta son prisonnier au soldat. Jules, pétrifié, croisa un instant le regard du mauvais garçon. Il y lut un mélange d'appréhension et de douleur d'une rare intensité. Les extrémités recourbées des mandibules étaient enfoncées dans la toile de son pantalon, découpée net. Un filet de sang s'écoulait de chaque entaille. La terrible étreinte se relâcha et le corps du malheureux roula sur le gravier. Une minute plus tard, il disparaissait, menotté au poignet entre deux gendarmes, tandis qu'on évacuait le soldat blessé sur une civière. Les promeneurs s'étaient remis en marche, comme si rien ne s'était produit. En un sens, c'était la vérité. Écœuré par l'attitude des Parisiens, plus encore que par la manifestation de brutalité gratuite des soldats, Jules en fit de même. Il parvint à se calmer en parcourant à grande foulée vengeresse la distance qui le séparait de la galerie des machines. Arrivé au guichet, il présenta le titre de transport falsifié par Babiroussa au préposé de l'accueil. L'employé y apposa le cachet de la compagnie impériale de liaison Terre-Lune sans sourciller. Jules pénétra ensuite dans le hall où voyageurs et curieux, nantis d'un billet de simple visiteur, tuaient le temps avant de l'arrivée de la nef Ischkiss. Jules Verne. Plus loin vers Hetzel, des insectoïdes, on est à Paris, Ischkiss, la nef, mais des extraterrestres, c'est quoi cette histoire, Johan Eliot ?
D'après ma documentation, c'est ainsi que ça s'est passé. Mais non, mais voilà, t'as bien fait de choisir cet extrait-là, puisque dans ce premier roman, en fait, j'ai réuni moi les deux passions qui ont été les miennes à l'adolescence. J'ai découvert dans le même temps à la fois les récits de science-fiction, on va dire classiques, et également ceux des auteurs de la fin 19e, des feuilletonistes. Enfin, je me régalais tout autant à lire Philippe K. Dick, Robert Silverberg que Gaston Leroux et Maurice Leblanc. Donc, c'est quasi naturellement que quand il m'a été offert la chance de publier ce premier roman, j'ai mixé ces deux influences. Voilà. Et je trouve que l'époque, la fin du 19e siècle, se prête d'autant mieux à une réécriture par le biais des motifs de la science-fiction, que c'est également l'époque qui voit naître la science-fiction moderne. Et ce qui va devenir justement ces motifs classiques, avec Jules Verne chez nous, Wells en Angleterre. Donc pour moi, tout est en germe. Et c'est enfin également l'époque où, à mon sens, on quitte un ancien monde pour arriver dans le monde moderne où la science se développe, éclate, où les grandes villes se redéfinissent. C'est l'époque où toute notre société est vraiment en germe. Donc voilà aussi pourquoi la raison du choix de ce moment-là.
D'or et d'émeraude, Eric Holstein, votre dernier roman. Alors là, on démarre. J'avais vu la quatrième, heureusement, mais sinon j'aurais été un peu étonné, j'aurais pu croire à un roman contemporain. L'annonce de mon départ pour la Colombie n'a pas surpris mes parents. Ils espéraient secrètement une décision de ce genre. J'étais revenu de Madrid à vif du souvenir de cette dispute que nous avions eue avec Kat. L'abcès de ses pensées cachées avait fini par percer. Il avait suppuré longtemps, infectant mon insouciance jusqu'à me convaincre que la solution pour retrouver ma sérénité se trouvait à 6000 km de chez moi. Un soir, j'avais fini par ouvrir le dossier de mon adoption. Il figurait tout ce que mes parents savaient de mes origines. C'était, je le crains, bien banal. Une mère trop jeune et trop pauvre, droguée peut-être, engrossée par un amant qui avait pris la fuite devant la perspective d'une paternité assumée. Des grands-parents qui n'étaient pas prêts à mettre en péril le fragile équilibre d'une famille au bord de la misère. Et, enfin, une pub à la télé pour un orphelinat. Dès lors, l'adoption internationale s'était imposée comme une évidence. Sur la photocopie de mon permis de conduire, au nom de Pilar Rosario Martinez Sanchez, la photo de ma mère était trop sombre pour distinguer ses traits. Mais je remerciais cet anonyme pour son geste. Il lui avait sans doute fallu beaucoup de courage pour prendre une telle décision. À moins que je n'aie été qu'une gêne pour elle, un mauvais souvenir qu'il convenait d'expédier au loin. Les documents indiquaient qu'elle venait de Tumaco, loin de Bogota. Le voyage avait dû lui coûter de la peine et de l'argent, et il n'était pas impossible que sa famille ait ignoré jusqu'à mon existence. Sur les formulaires, copie certifiée conforme des actes officiels, il y avait les coordonnées de la casa et un nom. Rosa Machaldano Ochoa. Je lui ai écrit une longue lettre en anglais. Je ne voulais pas demander à Kat de me la traduire en espagnol. Dedans, j'essayais en quelques mots de lui résumer qui j'étais. Comment mes parents m'avaient élevé. Quel genre d'homme ils avaient voulu faire de moi. Je lui disais aussi mon envie de connaître un peu mieux la Colombie. Puis, sur une impulsion, j'avais joint deux portraits de papa et maman dont j'étais particulièrement fier. La réponse que j'avais reçue avait été postée de France, confiée à un couple de parents adoptants qui rentraient chez eux. Rosa y exprimait des choses simples et très concrètes, mais avec ce qui semblait être une émotion sincère. Elle était heureuse que je veuille aller à la rencontre de ce pays qui était à tout jamais le mien. J'étais le bienvenu, comme tous les enfants de la casa. Pour finir, Rosa me recommandait quelques adresses et joignait les noms de plusieurs personnes de confiance qui seraient à même de faciliter mon séjour à Bogota. Parmi ceux-ci, il y avait celui de Lola et les coordonnées de sa pension. C'est elle que j'avais appelée la première, et de notre conversation maladroite, c'était dessiné le programme de mon futur voyage. Alors voilà, un jeune homme plutôt relativement bien dans sa peau apparemment, avec des parents qui l'ont élevé plutôt bien, qui l'aiment. Il n'a pas l'air d'avoir de problème majeur avec son adoption, ses origines, sauf qu'à force que tout le monde lui en parle, un peu c'est comme quand on voit quelqu'un chez nous qui n'a pas nécessairement la même couleur de peau que le petit blanc français moyen, on a tendance à lui demander d'où vous venez. Heureusement, un certain nombre de l'humour, ils vous disent de Bretagne, Dijon, etc. Et est-ce que c'est pas aussi ça, peut-être, quelque part, ce trait que j'ai senti en disant, est-ce que finalement, c'est pas un problème de toujours demander aux gens, quand ils sont pas tout à fait dans la norme, leurs origines ?
C'est un peu ça, c'est aussi ce que j'appelle dans le livre, et dans la vie aussi d'ailleurs, le syndrome d'Olto. C'est-à-dire que, quel que soit le problème qui se présente à un enfant adopté, tout le monde croit pouvoir lire à livre ouvert en lui par le seul prisme de son adoption. Il a des problèmes à l'école, il travaille pas bien, ah ouais, mais ça c'est un problème lié à l'arrachement de l'adoption. Il est bon au foot, ah ouais, mais c'est normal, il est colombien. Enfin voilà, c'est toute cette évidence est là. Et le livre est sur, et avant tout sur l'histoire, enfin sur la notion d'identité. Qu'est-ce qui nous définit ? Est-ce qu'on est où on est ? Ou est-ce qu'on est ce qu'on nous a inculqué ? Et partant de là, en fait, j'ai poussé la logique jusqu'au bout. Hein. Et c'est vrai que s'il part à la rencontre de ses origines au début du livre, c'est pas très très convaincu. C'est un peu avec cette idée de se dire bon, allez, tout le monde me dit que je vais y trouver le secret de mes origines. J'en suis pas convaincu, mais j'y vais histoire d'être débarrassé, histoire d'être sûr. Et il est pas particulièrement convaincu. Et il va se retrouver. Aux origines de ce qu'il est, mais réellement aux origines, c'est-à-dire aux origines du pays dans lequel il est né. Et c'est comme ça qu'on va lentement glisser vers l'Uchronie.
Eh bien justement, glissons. En fait, de fiers centaures, ce n'était qu'une troupe de gueux dépnaillés qui s'avançait sous la bannière impériale de Charles Quint. Depuis bien longtemps déjà, ils avaient renoncé au plastron d'acier. Ils portaient d'épais surcots de coton que seuls les plus précautionneux étaient arrivés à ravauder. La moiteur, omniprésente, avait eu raison de ces armures molles et parfois même de leurs porteurs qui parvenaient encore à mourir de déshydratation dans cette affaire tropicale. Leurs casques avaient été mangés de rouille et pour nombre de ces ruffians, leurs épées ne valaient pas mieux. Enguenillés, sales et hirsutes, la peau jaune de la pestilence des forêts et les yeux éteints par l'épuisement, ainsi allait la piétaille. La cavalerie n'offrait pas un meilleur spectacle. La soixantaine de chevaux, miraculeusement rescapés, n'étaient plus que des carnes étiques, dévorées de parasites, pelées par l'humidité. Celles dont les chines le supportaient encore étaient montées à cru. Les selles avaient pourri et les hommes avaient fait bouillir le cuir des harnais pour tromper la faim obsédante. Bon nombre de cavaliers avançaient à pied, tenant leurs rosses à la longe. Comme toujours, depuis le début de cette longue débâcle, Gonzalo Jiménez de Quesada marchait devant, montait sur un étalon andalou qui avait été ombrageux. Le velours brodé d'or de sa selle mauresque avait disparu, ne laissant que la haute assise de bois. Il avait pris l'habitude de la garnir de peau de daim, tout juste tannée. Il n'était ni plus glorieux, ni plus vaillant que sa troupe, mais taisait ses tourments, car au loin se dessinait la fin du calvaire. Ces dernières semaines avaient été parmi les plus éprouvantes d'un voyage de près d'un an, qui avait porté plus que son lot de souffrances. À ses côtés, chevauchait Hernán Pérez, son cadet. Venaient ensuite les Brijad et Céspedes, les deux capitans qui avaient reconnu les montagnes, pendant que Quesada, dévoré par les fièvres, attendait de savoir s'il allait mourir à la sortie du canyon creusé par le Rio Open. Il avait survécu et conduit ses hommes, poussés toujours plus loin par leurs rêves de grandeur et les ombres de Cortés et Balboa. Comment une bande de branquignols dépenaillés et minables comme ça ont-ils pu abattre l'Empire aztèque?
Beaucoup de choses. Après, il y a énormément d'encre qui a coulé dans les cercles académiques pour savoir comment les branquignols en question ont abattu l'Empire aztèque. Mais faut voir que... Déjà, l'Empire était pas vraiment un empire, mais plutôt une hégémonie, c'est-à-dire que Tenochtitlan était le centre et survivait essentiellement en exigeant un tribut de la part de ses voisins, mais en gardant en place tout ce qui était monarchie déjà existante. Donc fondamentalement, c'était quelque chose qui se nourrissait du ressentiment des tribus voisines et qui était dans une position favorable. Donc quand les Espagnols sont arrivés et ont exprimé le souhait d'abattre Tenochtitlan, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se rallier à eux, en particulier Tlaxaca, qui était un de ces gros empires que les Aztèques n'avaient pas réussi à terrasser. L'autre chose, c'est que c'était un empire sous un empereur relativement faible. Moctezuma II n'était vraiment pas à la hauteur de son prédécesseur à lui seul. C'était un homme qui était assez paranoïaque et qui n'avait pas fait énormément de conquêtes et qui avait une notion de tout ce qui était militaire qui était largement inférieure à son prédécesseur. Il y a un certain nombre d'historiens qui ont spéculé que si son prédécesseur avait été là, il aurait au moins repoussé la première vague. Et enfin, y a les maladies. Il y avait parmi les hommes qui accompagnaient Cortés quelqu'un qui avait eu la petite vérole et quelque chose contre laquelle la plupart des Européens étaient immunisés mais que les Indiens n'avaient jamais vu. Et la petite vérole, ça fait énormément de dégâts et ça a abattu je crois que c'est 80% des Indiens en un temps relativement court. Donc ça a mis du temps à se déclarer. En fait, il a fallu, c'était pendant le siège de Tenochtitlan, donc c'était un an et demi après que Cortés soit arrivé, mais une fois que c'était en marche, c'était relativement inexorable.
Oui.
Et puis, ils n'étaient pas si branquignoles que ça, en fait. Ils étaient, ils partaient d'Espagne la tête farcie de récits. Alors ça, c'est que ce soit pour que ce soit Cortés ou Quesada. Il partait déjà avec la tête farcie de ce qu'avait dit Colomb, qui parlait des trésors, etc. Ils étaient tous ceux qui lisaient étaient tous des lecteurs de romans chevaleresques. Donc ils avaient vraiment la tête pleine de ça, et ils avaient brûlé les ponts derrière eux. Quoi, c'est ils partaient. Il y en a qui quittaient femmes et enfants, qui voilà, ils étaient grillés en Espagne. Il y en a qui partaient parce qu'ils étaient en délicatesse avec la justice. D'autres qui partaient en disant on va revenir richissime. Donc pour eux, il n'était pas question de revenir à la queue entre les jambes en disant ben voilà, c'est alors effectivement, il y avait plein de trucs, mais on a rien pu ramener, désolé quoi. Donc ben ils avaient traversé un océan, enduré tout ça, et il n'était pas question de revenir les bras ballants. Et ils avaient une approche du matériel qui était totalement différente de celle des Indiens. Donc les Indiens comprenaient absolument pas cette espèce de convoitise qu'ils voyaient comme une barbarie absolue quoi. Ils disaient mais oui, enfin voilà, pas la peine de se mettre dans des états pareils pour un petit peu d'or quoi.
Ils étaient vraiment pas dans le même état d'esprit. Enfin, je sais pas comment c'était en Colombie, mais chez les Aztèques, ils étaient vraiment aussi dans tout ce qui était guerre rituelle. Donc en particulier, ils étaient très choqués du fait que les Espagnols revenaient sur leurs paroles, qu'une fois qu'ils avaient fait des traités, ils s'arrangeaient comme ils voulaient. Pour les Aztèques, à partir du moment où la ville était prise, à partir du moment où les temples étaient tombés, c'était fini. On arrêtait là. La notion de, entre guillemets, de guerre totale que eux ramenaient avec eux, c'était quelque chose qui était complètement alien pour les Aztèques. Ils n'envisageaient même pas.
Eh bien, vous voyez, comme l'Uchronie d'histoire, ça met plein de choses en jeu et ça peut paraître au départ anecdotique, on s'amuse avec l'histoire et tout de suite, on se pose les questions essentielles de qu'est-ce qui fait la gloire et la décadence d'un empire, qu'est-ce qui fait la force et la fragilité d'une civilisation et pourquoi il faut être vigilant parce que les barbares, quels qu'ils soient, peuvent toujours gagner aussi. Et les barbares, c'est parfois nous, les Occidentaux. Là, on change d'époque. On change d'époque avec Pierre Bordage. On va rentrer tout de suite dans un autre univers et vous allez voir, c'est pas tout à fait celui qu'on connaît. Bonsoir à tous, déclara-t-il d'une voix forte. Vous qui avez reçu un magnifique cadeau lors de votre enfance, soyez remerciés d'avoir rejoint le réseau secret des Pères Noël du savoir. Vous ne porterez pas de jouets ni d'oranges dans vos bottes, mais vos connaissances. Et c'est le plus beau, le plus merveilleux des cadeaux. Nous pensons, et vous aussi sans doute, qu'un royaume digne de ce nom, une nation moderne, ne se construit pas en laissant l'écrasante majorité de sa population dans l'ignorance. Nous avons l'espoir et la volonté de provoquer le changement, et le savoir est l'indispensable condition à l'avènement d'une ère nouvelle. Il marqua un court temps de pause. Magda regrettait la chaleur bienfaisante de sa main. Le groupe comptait trois autres femmes, deux âgées d'environ 40 ans et la dernière d'une soixantaine d'années. Les hommes, eux, s'échelonnaient entre 20 et 70 ans. La fumée de cigarettes et des pipes irritait la gorge et les narines de Magda. Le royaume de France est prêt pour le changement, reprit l'homme moustachu. Les écoles nocturnes se multiplient, malgré la répression féroce dont est victime notre réseau. Privé pendant plus d'un siècle du droit élémentaire au savoir, le peuple a soif d'apprendre. Aussi, il nous faut recruter pour pouvoir répondre à la demande. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous accueillir parmi nous. Il se tut une deuxième fois et laissa errer son regard sur les membres de l'assemblée. Magda se demanda d'où jaillissait la tristesse qui s'écoulait de ses yeux et de sa bouche et qui contredisait ses propos. S'il faisait partie des privilégiés comme elle, comme tous ceux qui s'étaient rassemblés dans cette pièce, il aurait dû exulter, brûler d'un feu clair et joyeux. Elle avait eu la chance de naître orpheline et d'être recueillie par des sœurs qui l'avaient remarquée pour sa vivacité d'esprit. Elle avait fait partie de ces enfants formés pour transmettre les rudiments du savoir aux filles et fils des grandes familles du royaume. À la fin de sa scolarité, on l'avait envoyée comme préceptrice dans une pension pour jeunes filles de Meudon. Elle souffrait de dispenser des cours à des élèves qui la méprisaient et ne s'intéressait à rien d'autre qu'à leur futur mariage ou au potin de la cour de Versailles. Sa chevelure noire et indomptable lui avait valu le surnom de Yak. Elle avait vérifié sur le R21, le réseau informatique de la pension, à quoi ressemblait un Yak. Elle n'avait pu s'empêcher de sourire lorsqu'un troupeau de ruminants d'un lointain empire d'Asie était apparu sur l'écran. Notre dessein est de réaliser le grand rêve de Jules Ferry, fusillé avec tous ceux du gouvernement Gambetta, alors qu'il s'apprêtait à décréter l'école obligatoire et laïque pour tous les enfants de la République. Le réseau vous affectera à chacun une classe populaire clandestine. Vous n'ignorez pas le risque encouru, la peine de mort si vous êtes pris en flagrant délit d'enseignement interdit. Plus de 1000 d'entre nous ont perdu la vie depuis la fondation du réseau en 1942. Vous pouvez encore renoncer. Il vous suffit de repartir maintenant de cette pièce après avoir juré de garder le silence sur notre organisation. Certains d'entre vous sont pères ou mères de famille. Il ne vous sera adressé aucun reproche. Que ceux qui ne souhaitent pas s'engager plus loin s'en aillent maintenant. Alors, c'est la royauté qui a gagné, qui a maintenu le système royal. Et puis donc l'école, à part un rudiment pour les privilégiés, c'est l'exécution sommaire pour les instituteurs clandestins. C'est un monde qui finalement donne presque envie d'aller à l'école aux jeunes générations. C'est ça que vous vouliez dire, Pierre Bordage, au moment où l'école est en crise ?
Oui, j'avais pas l'intention de faire une uchronie au départ. Disons que ce n'était pas quelque chose qui m'était venu spontanément, bien que j'adore l'histoire, hein, que je pense qu'il faut aimer l'histoire pour faire de l'uchronie. Et c'est Alain Grousset qui a créé une collection qui s'appelle Uchronie chez Flammarion, qui m'a demandé, et qui voulait que je fasse partie, comme Johan d'ailleurs, qui fait partie aussi de l'aventure, de réfléchir à une uchronie. Et donc j'ai réfléchi à une uchronie. Je n'ai proposé une première qui a fait semer la terreur chez Flammarion, donc on l'a écarté. Parce que
ça suscite la peur.
Oui, c'était l'Europe musulmane et avec des terroristes chrétiens qui se faisaient sauter dans les mosquées.
Et... un super sujet.
Et bon, ils ont eu un peu peur, mais oui, mais tu comprends. Bon, bref. Donc j'ai réfléchi à une autre, puis après je me suis dit, j'ai vu un nouveau gouvernement arriver, donc celui qu'on a actuellement. J'ai regardé je me suis souvenu des enfants, de mes enfants, quand ils allaient à l'école, ils disaient à l'école c'est chiant, c'est pénible et tout. Bon. Et je me suis dit que l'école, je me suis souvenu que mes grands-parents et mes parents eux-mêmes sont sortis de l'école à 10 ans, 11 ans. Que l'école c'était pas forcément quelque chose d'éternel, je veux dire ce privilège qu'on a elle n'est pas forcément garantie pour l'éternité, et je me suis dit que ce monument qu'est l'école laïque était en danger, et je me suis intéressé du coup au moment où ont été promulguées les lois Jules Ferry, etc. Je me dis si à partir de là il y avait une divergence historique, donc principe de l'Uchronie, et si on avait interdit l'école aux gens du peuple, et quelle sorte de société se serait développée depuis. Donc la monarchie, effectivement, aurait pris le pouvoir, on aurait renversé le gouvernement Gambetta, fusillé tout ce joli monde, parce qu'on adore fusiller, ça c'est un truc. Dans l'histoire, on adore fusiller, donc on a aussi fusillé cela. Ensuite, bon, plus d'interdiction de l'école aux gens du peuple, et donc, du coup, quand on prive les gens de quelque chose, ils n'ont qu'une envie, c'est de l'avoir. Et donc les gamins se pressent la nuit dans des greniers, dans des cours donnés par des instituteurs risque-tout, révolutionnaires, à la lueur des bougies, parce qu'il n'y a pas forcément d'électricité pour tout le monde non plus. Et donc, voilà, c'est toute une réflexion sur l'école, et je me suis rendu compte que l'Uchronie avait cette vertu incroyable, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à mon avis, à l'anticipation, sauf que l'hypothèse, elle se passe dans le passé au lieu du futur. C'était un miroir de notre époque, un miroir très intéressant parce qu'il permet de réfléchir sur ce qu'est notre monde actuellement. Je me suis aussi rendu compte que dans des sociétés libérales, l'école n'était pas garantie du tout. Et qu'actuellement, il y a des attaques contre l'école qui sont très fortes, et que c'est un poste qui ne devrait jamais souffrir de la moindre diminution de budget, et que malheureusement, on en est là, quoi. Et que donc, ben voilà, c'était tout cet enjeu du savoir, à qui appartient le savoir, celui qui détient le savoir en général détient le pouvoir, et que dans une démocratie, le savoir doit être partagé le maximum pour que tous aient le pouvoir, comme le dit le nom de démocratie. Donc voilà, tout ça, et après, avec tout l'enjeu, et je me suis rendu compte de ce que c'était une uchronie, parce qu'il y avait tout un tas d'enjeux qui se mettaient en place, il y avait tout un tas de choix à faire. Alors je ne sais pas comment, j'ai pas lu le livre d'Eliot, mais ça m'intéresse, cette histoire de comment est-ce que les valeurs aztèques peuvent arriver jusqu'à notre époque, et ce qu'elles peuvent apporter. Les inventions technologiques, qu'est-ce qu'on gardait? Alors mes trains sont à vapeur, on est en 2008 hein, dans le bouquin, les trains sont à vapeur toujours, mais il y a des avions. Il y a un réseau informatique, mais il n'y a pas de téléphone. Bon, il y avait des espèces de choix à faire comme ça qui étaient le téléphone, pourquoi pas de téléphone? Parce que le téléphone, c'est un instrument de communication qu'on maîtrise mal pour un pouvoir, et que donc c'était dangereux que des gens aient l'usage du téléphone, etc. Voilà, c'était aussi très amusant, et en même temps, ça m'a obligé à me pencher sur une période que je connaissais très très mal, qui est la Troisième République, et donc la République Gambetta, tout ça. Un truc qui m'est complètement. Je me souvenais plus du truc, de savoir quel président de l'époque, enfin, je ne me souviens même plus d'ailleurs. Et donc de repartir d'une époque, et donc de m'intéresser à tout un tas d'éléments historiques que j'avais occultés. entre autres la royauté, par exemple, bon voilà, alors vous faites une uchronie, maintenant quelle est la royauté la plus probable possible, et ça oblige à se pencher sur les dynasties royales, voilà. Si une famille veut acquérir la noblesse, alors comment est-ce qu'on... l'héraldique, la science des blasons, j'ignore totalement la science des blasons, j'étais obligé de m'intéresser à l'héraldique, etc. Et donc d'un seul coup, ça nous fait réintéresser totalement à l'histoire et replonger dans... Et parce que je pense qu'une uchronie, enfin, d'après mon expérience, elle est d'autant plus réussie qu'elle est basée sur une histoire forte, enfin sur une histoire bien respectée et bien comprise à ce moment-là.
Vous avez le même point de vue, Jeanne Elliott, une histoire forte et respectée qui permet justement d'appuyer le point de divergence?
Oui, tout à fait. Et quand bien même, bon, ce qui est mon cas, moi je suis parti après sur quelque chose, j'ai fait exprès d'exploser les cadres de l'histoire, mais quand bien même j'ai introduit des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, il a bien fallu que je me plonge aussi, malgré tout, c'est vrai, dans cette parenthèse historique qui... Alors peut-être parce qu'elle est pas elle est loin d'être la plus enseignée moi-même, mais mes souvenirs concernant la fin du 19e siècle étaient assez flous. J'ai dû me replonger. Je fais de nombreuses références à la Commune, donc au Second Empire et au début de la Troisième République. C'est vrai qu'il a fallu que je me réinscrive dans pas mal de bases documentaires pour poser ces bases-là. Et je pense que plus les fondations effectivement historiques sont sérieuses et solides, plus ça autorise ensuite justement les libertés avec l'histoire. Tout à fait.
Aliette, quand on voit, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est-à-dire déjà vos nouvelles mettant en scène les Aztèques, d'abord j'ai l'impression qu'on confond un peu tout, et je me mets dans ce on, hein, général, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs, pour nous, c'est tout ça, c'est pareil, alors que visiblement, ça n'était pas le cas. Et la deuxième chose, c'est quand on a une vague bribe de culture sur ces pays-là, l'image qu'on en a, c'est d'abominables sanguinaires individus qui, par milliers, voire dizaines de milliers, arrachaient le cœur sur les pyramides des pauvres sacrifiés. On se demande même, d'ailleurs, comme dans un tel flot de sang, une telle barbarie, cette société pouvait fonctionner. Est-ce que c'était la réalité de la société aztèque?
C'est difficile à savoir. C'est pareil, hein, c'est toujours des choses qui sont filtrées à travers le point de vue des Espagnols. Qu'il y ait eu des sacrifices humains, c'est indéniable. Après, c'est aussi indéniable que les Espagnols étaient des chrétiens, et donc la notion de gens qui sacrifiaient des gens pour... des...
Pardon. Non, c'était pas loin de crétins, c'est pour ça que j'ai...
Ah. Peut-être aussi, mais... et donc pour eux, la notion de sacrifier des gens sur un autel devant des idoles, c'était quand même assez répulsif, et de faire ça en masse, entre guillemets, c'était aussi difficile à comprendre. Ce qu'il faut voir, c'est que pour les Aztèques, c'était pas de la cruauté, c'était pas un jeu, c'était vraiment une question de survie. Ils croyaient que au début de l'univers, les dieux avaient donné leur sang pour mettre le soleil en marche et créer l'humanité, et que c'était à l'humanité maintenant de repayer cette dette. En particulier, c'est intéressant qu'ils considéraient qu'une personne, à partir du moment où elle avait goûté les fruits de la terre et marché sous le soleil, était redevable de cette dette-là. Donc les enfants qui ne sont pas encore sevrés échappent totalement à toute notion de rétribution. Mais à côté de ça, ils ont un certain nombre de choses qu'ils ont faites, en particulier en astronomie, en architecture, qui sont très impressionnantes. Ils étaient très très bons sur tout ce qui est éclipse du soleil. Alors tout le monde connaît la BD de Tintin où les Incas sont pas capables de prédire une éclipse du soleil. Les Incas savaient exactement quand est-ce qu'aurait eu l'éclipse du soleil et de combien le soleil serait occulté, parce que c'était des choses qui les préoccupaient énormément, de même que les mouvements des étoiles. Et socialement, ils étaient aussi relativement avancés avec... Par exemple, les femmes avaient des droits assez importants de divorcer, d'hériter, etc., qui sont des droits qui ne sont pas forcément acquis dans notre civilisation à des niveaux de technologie à peu près équivalents. Et ils étaient... tout ce qui était torture pratiquée par les Espagnols, c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient absolument pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi les Espagnols voudraient répandre du sang et créer de la douleur qui pour eux était sacrée, et pourquoi ils voudraient faire ça juste pour trouver de l'or, qui lui aussi était sacré, donc pourquoi ils le volaient pour eux aussi. C'était complètement... c'était vraiment un monde différent, avec des valeurs différentes, et des réussites qui étaient aussi pas sur le même plan que l'Occident.
En lisant vos textes, Aliette, j'ai vraiment eu l'impression d'un véritable, alors là, d'un profond dépaysement. Je crois qu'autant on peut en imaginaire voir des sociétés très éloignées des nôtres, c'est peut-être une des sociétés sur lesquelles en fait on fantasme le plus, parce qu'on a tous lu des choses sur l'Égypte et on a une certaine idée, même si on n'est pas spécialiste de ce que ça peut être. Alors qu'à l'inverse, est-ce que ça vous donne pas une liberté considérable dans la partie imaginaire, justement, le fait qu'on ait juste un imaginaire caricatural et extrêmement faible, je crois, par quelques spécialistes, de ces sociétés. Et justement, est-ce que pour un auteur d'imaginaire, c'est pas une incroyable liberté ?
Moi, ça me rend nerveuse plutôt qu'autre chose, parce que il y a deux choses. La première, c'est que déjà, je me dis toujours que ce que je fais n'est pas forcément historiquement réaliste, et ça m'embête, parce que comme Johan et Pierre, je préfère m'appuyer sur un socle historique déjà existant, et dans la mesure du possible, pas créer une culture aztèque de toutes pièces qui n'a rien à voir avec la réalité. Et puis, il y avait une deuxième chose que je voulais dire, et évidemment, ce ne serait pas drôle si je m'en souvenais. Le souci aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des préconçus qui ne sont pas forcément faciles à surmonter. J'ai eu beaucoup de remarques, par exemple, quand je dis que les magistrats aztèques refusaient de torturer les gens, systématiquement, j'ai des remarques du genre « Ah, mais ça, c'est pas possible. Tu l'as inventé. » Et en fait, non. Donc, c'est une très grande liberté, mais ça peut aussi être assez contraignant.
On peut faire des sacrifices humains et refuser de torturer les gens, et on peut être contre la torture, et puis en fait, en réalité, la pratiquer tant que ce n'est pas sur son territoire. Les choses sont parfois étranges dans les civilisations. Quand on revient justement à votre roman, donc il démarre comme un problème en gros d'identité, même s'il est un peu imposé de l'extérieur. Ensuite, on passe à la Colombie, y compris avec les images qu'on a des cartels, de la drogue, etc. Et on bascule complètement des siècles en arrière, ou du moins dans ce qu'on croit être ces siècles en arrière. Et pourquoi l'idée d'une uchronie qui se situe dans ces pays-là ? C'est vraiment un choix au hasard ? Vous avez des liens avec ces sociétés, ou il y a une passion que vous avez, les voyages ? Qu'est-ce qui vous a poussé, Eric Holstein, à vous intéresser à cette période historique, dans votre uchronie, à ce continent ? Voilà.
Plus qu'un continent, c'est d'abord un pays. C'était écrire sur la Colombie parce que mes enfants sont nés en Colombie. Voilà, donc il y a un peu de projection dans cette partie sur ce que mes enfants pourraient découvrir de ce pays, et j'ai repris des travers de parents adoptants, notamment à un moment donné, voilà, l'habitude qu'ont les parents de signaler dès qu'il se passe un truc sur la Colombie à leurs enfants. Tu vois, le footballeur, il est colombien, etc. Et en fait, mon fils s'en fout complètement, et à juste titre, c'est normal. Il est élevé comme un petit Français, il s'en fout de savoir que Shakira est colombienne, ce qui est tout à fait normal. C'est juste que on a développé un lien particulier à ce pays. Et c'était un peu, voilà, j'avais le sentiment d'avoir entre guillemets une dette à payer à ce pays, et de m'intéresser à son histoire a été une manière de le faire. Alors après, il se trouve que il y a eu toute une suite de hasards heureux, comme par exemple la personnalité de Gonzalo Jiménez de Quesada, qui est un conquistador assez atypique, qui était à la différence de Cortés ou de Pizarro, qui n'était pas des il n'était pas déjà installé, lui, aux Indes. C'était pas un aventurier, c'était un juriste qui vient de débarquer. Enfin voilà, il se lance dans cette exploration qui va durer un an et qui va le conduire sur la Tipano de Bogota. Quand il se lance là, ça fait 4 mois qu'il est arrivé aux Indes. Il connaît rien. C'est assez étonnant. Il y a plein de zones d'ombre dans la biographie de Quesada qui en font un personnage intéressant sur le plan dramaturgique. Et en fait, voilà, remonter aux origines de ce pays qui a le sentiment d'être marqué par la violence était un moyen aussi de remonter à l'origine de ce personnage qui se demande qui il est, et qui du coup va même avoir l'occasion de forger son identité, de reforger une identité, mais avec un matériau de base qui est notre monde. Donc c'était c'est ça qui m'a poussé à, à m'intéresser à ça. Et après, bon, comme disait Pierre, ben, comme disait tout le monde, hein, ce qui est intéressant dans l'idée d'une uchronie, ça ne marche vraiment que si, à la base, on part sur quelque chose d'historiquement le plus juste possible.
Ben voilà, c'est ça. On était un peu en retard, mais finalement, avec des interlocuteurs aussi passionnants, on voit pas le temps passer. Puis d'un seul coup, j'en garde quand même ma montre, contrôle, il est 5h. Je vois comme la statue du commandeur, le modérateur suivant qui me jette un regard noir. On a respecté, il est 5h. Pas Paris s'éveille pas, mais en tout cas, Épinal continue les imaginales. Eric Holstein, D'or et d'émeraude, en tout cas un roman, en toute honnêteté, je ne l'ai pas fini parce que j'étais un peu prise de court, mais je suis rentré dedans et je vais le terminer parce que c'est vraiment les extraits que j'ai lus, ça montre bien comment on part du contemporain, comment on va vers un pays et comment on plonge dans son histoire. En tout cas, un livre vraiment, pour moi, prometteur et je pense aussi pour nos lecteurs. Pierre Bordage, Ceux qui sauront et la suite, puisque c'est un diptyque, paru chez J'ai lu.
Trilogie, parce qu'il y a Ceux qui osent aussi.
Ah, je sais tout maintenant, voilà, le scoop hein, en plus. Donc, une série sur l'école, une uchronie qui se passe dans une France différente, ce qu'elle aurait pu être. Et puis, d'Obsidienne et de Sang, dans les chroniques aztèques, des romans indépendants. Hein. Chaque roman est quand même indépendant, mais ça, c'est le même univers qu'on retrouve. D'Aliette de Baudard, c'est un éditeur aussi, Eclipse, qui se lance complètement dans l'imaginaire, donc avec qui il va falloir apprendre à compter. Et puis, un éditeur là qu'on connaît bien, c'est aussi un partenaire des Imaginales. La Lune seule le sait, et plutôt là, c'est la trilogie, hein, l'intégrale de Johann Eliot, Jules Verne, Hetzel, Napoléon III, les extraterrestres, vous voyez, il y a de quoi faire. Merci à vous.